est arrivé, un peu gêné. Il n'y avait pas de record à son cou. Tout son talent s'est déployé. Il est de mieux en mieux, il y a plein d'atouts. C'est un bon allié qui aime ça compter. Va peut-être devenir notre chouchou. Il est souriant, c'est s'amuser. Il aime le tartare comme un fou.
Marc-Antoine Godin, salut.
Bonsoir, Ron.
Directeur de la rédaction et journaliste principal à athletic.com. Tatar!
Oui.
Ça nous fait-tu oublier un petit peu Pacioretty, même si Pacioretty connaît du succès actuellement. C'est-tu correct, ça? C'est-tu correct, moi, la question, c'est est-ce correct ainsi?
Ben oui.
Hein?
Écoute,
ben oui.
Moi, je trouve que c'est une transaction qui vraiment avantage grandement le Canadien, parce que je m'attendais pas à ce que Tatar s'implique autant et fasse quand même une différence sur le top 6, parce que il est redevenu le joueur qu'il était à Détroit et non pas, tu sais, on a tendance à le percevoir à cause de son arrêt raté à Vegas, si tu veux. Mais dans le fond, le marqueur de 20 buts, le gars de 45, 50 points, c'est davantage ce gars-là qu'on a avec le Canadien. Et il aide certainement à faire oublier Max Pacioretty, mais il ne faut pas oublier dans tout ça, le joueur clé de la transaction ne joue pas encore dans la Ligue nationale.
Exactement.
Alors, tu sais, je crois que Tatar va être à Montréal pour plus longtemps que certaines personnes l'imaginaient. C'est pas un gars qui va être là de passage. Il se plaît à Montréal, puis je trouve qu'il s'insère très, très bien dans la dynamique de l'équipe. Fait que c'est vraiment un bel ajout, mais j'ai quand même des doutes par rapport à la production offensive de ce trio-là pour la suite de la saison.
Nikita Scherbak. Nikita Scherbak, réclamé par les Kings, aucune surprise qu'il parte. Moi, j'ai dit, il n'y avait pas la bonne attitude. Toi, tu dis quoi?
Ben, la bonne. Écoute, il y a plusieurs éléments là-dedans. Pas la bonne attitude, je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'il avait vu qu'il y avait une opportunité pour lui et je ne sais pas pourquoi, mais il a été complètement paralysé par la situation. Il n'a absolument rien fait pour la saisir. Pourtant, c'est pas faute que le Canadien lui ait demandé de s'améliorer dans certains départements. Je pense qu'il savait très bien ce que l'équipe attendait de sa part. Et puis, il l'a pas fait. Alors, à un moment donné, ça revient, ça en incombe aussi aux joueurs. T'sais, je sais que tout le monde critique, va critiquer le recrutement du Canadien, dire, bon, ils ont gaspillé un premier choix. On peut mettre ça sur le dos du développement dans la Ligue américaine également. Mais à un moment donné, il faut que le jeune se prenne en main et dise, ben là, j'ai une situation devant moi, j'ai une porte qui s'ouvre. Il faut que je profite de ma chance parce que du monde qui veut jouer dans la Ligue nationale, il y en a un puis un autre. Alors, il faut que ce soit moi, puis il faut que je m'arrange pour que ça se produise. Et dans le cas de Scherbak, écoute, je peux très bien comprendre le fait qu'il a peut-être pas eu une opportunité énorme ou très, très fréquente avec le Canadien. On dirait que Claude Julien s'est vite fait une idée à son endroit.
Pénalité d'annoncer contre les Rangers. C'est le temps! Shea Weber! Son deuxième du match!
À quel niveau Shea Weber fait-il une différence? Ça, c'est notre question sur notre Facebook 98.5sport.ca. Ce soir, vous pouvez répondre. Notre ami Marc-Antoine Godin va y répondre. À quel niveau Shea Weber fait-il une différence?
J'espère que c'est au pluriel, quel niveau, parce qu'il fait une différence à plusieurs niveaux, mais en même temps, ça fait juste 3 matchs, fait que à savoir si on a raison ou non, on va attendre un peu, mais je vais donner des pistes de réponse. Tout d'abord, je pense que son plus gros impact, c'est le fait qu'il recule d'autres défenseurs, qu'il replace d'autres défenseurs dans la bonne chaise.
Ouais.
Il réduit les minutes de Jeff Petrie, il réduit les minutes du troisième duo, et fait en sorte que, tu sais, que ce soit lui plus Petrie, ces deux droitiers-là ensemble font en sorte que il y en a toujours un des deux sur la glace pendant environ 48 à 50 minutes. Ça fait une grosse différence.
Okay.
Je trouve également que le Canadien passe moins de temps dans sa zone quand il est sur la glace. Ça fait en sorte que la rondelle va plus rapidement de l'autre côté. C'est pas un hasard si dans les trois matchs qu'il a joué, le Canadien a eu plus de 40 lancés dans chacun de ces matchs-là. Mm-hmm. Et le troisième élément, on l'a peut-être pas encore vu, mais je suis certain que rapidement, il va avoir un impact au niveau de l'avantage numérique. Pas seulement à cause de son lancer à lui, mais aussi à cause de l'espace qu'il va offrir aux autres possibilités de tireurs chez le Canadien. Le gros, gros problème de l'avantage numérique, c'était qu'ils n'étaient pas capables de rentrer en zone adverse. Ils prenaient un temps fou à le faire. Mais là, ils ont abandonné leur petite passe arrière lors du week-end. Ça a fait une grosse différence. Ils s'installaient plus vite. Mais tu vas voir que je pense que ce ne sera pas trop long, que les cinq gars de la première unité vont se trouver. Et si ce n'est pas Weber, il y a d'autres gars qui vont avoir des bons couloirs de tir à cause de sa présence.
Belle passe à Petrie, descend au cercle, il lance, touche le poteau! Et l'autre tir bloqué, retourne dans le goal! Jeff Petrie!
Colin Dabin, ça me tente de te poser une question.
OK.
Incluant l'année passée, on sait que Gallagher a connu la saison de rêve l'année passée. Petrie, c'est-tu le meilleur joueur du Canadien? Le plus régulier, même incluant cette année? Si on compare toute l'année passée et cette année ensemble, pense à son, j'appelle ça le workload, c'est-à-dire ce qu'on lui demandait de faire, sa charge de travail, OK? Pour moi, Petrie, s'il n'est pas numéro un, il est numéro deux, Colin.
Je suis pas d'accord avec toi. mais écoute, je trouve que tu dis le plus il a certainement pas été le plus régulier. C'est un gars qui moi je le regarde jouer, j'ai l'impression que dans son cas comme dans celui de Jonathan Drouin, très très tôt dans un match, on peut voir s'il est dedans ou s'il l'est pas. Ça prend trois présences puis tu dis oh, OK, ça c'est une de ces soirées-là dans le cas de Petrie ou de Drouin. Cela étant dit, la valeur des services qu'il a rendus aux Canadiens dans les 18 derniers mois, écoute, je te rejoins 100%. C'est un gars qui a été appelé à remplir un mandat plus grand que ce que normalement on s'attendrait à ce qu'il soit capable de faire. Il a pris vraiment les bouchées doubles, sinon triples, et une chance qu'il était là. Cela étant dit, je pense pas que c'est pas un premier défenseur.
Marc-Antoine, c'est justement ça que j'essaie de dire. D'abord, c'est son meilleur mois de novembre. Il y a le sixième temps de glace en avant, le sixième défenseur de toute la ligue avec le plus grand nombre de minutes de jouer, OK?
Ouais.
Alors, lui, là, on le compare, là, lorsque je te parle de sixième novembre, on le compare au meilleur défenseur de la ligue. Tu comprends?
Oui.
Alors, des un ou des deux. Lui, c'est un trois. Alors, lui, là, ce qu'on lui a demandé l'année passée à l'absence de Weber, ce qu'on lui a demandé depuis le début de l'année à l'absence de Weber, ça a été un surhomme. Il y a eu des matchs où il a joué 34 minutes, il avait de l'affaire à jouer 24, puis il y a eu des matchs où il a joué 26 minutes, puis ça n'a pas bien été parce que, justement, il jouait trop de minutes. Tu me suis, là, mais je veux dire, ce gars-là, là, il était pas du tout dans la bonne chaise. Puis, mais il a quand même dansé la valse, tu comprends?
Oui, absolument. Il a aidé le Canadien à garder la tête hors de l'eau. T'sais. Puis souvent, les journalistes, on doit voter à chaque année pour le trophée Jacques Beauchamp de la quatrième étoile. T'sais. Puis on dirait que c'est un gars qui le mérite un peu en permanence, ce trophée-là, parce que c'est un peu un pompier en défensive. Il y a tellement de défenseurs qui sont des cinquièmes, des sixièmes, des septièmes, que lui, il en prend des minutes top 4, il a dû affronter une compétition qui était très difficile. Puis même si ça n'a pas toujours été facile, je trouve que c'est clair qu'il rend de gros, gros services aux Canadiens. Puis je pense qu'il va être encore meilleur avec
le retour. OK, Gabin, Marc-Antoine Godin, je vais dire une chose là. Tu sais, on plante le Canadien un petit peu, là, mais il y a d'autres équipes aussi qui ont fait la même chose à cause du changement de hockey, comme on dit, là. C'est-à-dire les choix de première ronde qu'on pensait qui étaient pour se développer puis devenir des bons joueurs. Ben, on les a perdus. Nous autres, là, on a perdu un paquet. C'est parfait. Ailleurs aussi, ça s'est fait. Mais moi.
Ça s'est vu aujourd'hui avec Daniel Sprung, qui a quitté Pittsburgh.
Exact. Moi, là, je veux te parler. J'aime ça parler des bons coups. C'est correct? J'aime ça parler des bons coups. Moi, je me souviens, le 2 mars 2015. OK? Il y avait un joueur qui jouait à Edmonton. Puis moi, j'ai appelé mes amis là-bas, dont Jim Matheson, puis des journalistes, puis j'ai appelé Kevin Lowe, puis j'ai appelé une coupe, puis je demandais, Petrie, comment ça? Ah, tu sais, Ron, il joue pour une équipe ordinaire, puis il est peut-être pas dans la bonne chaise aussi, là, tu sais? Puis il y a de la misère, tout ça. On l'a eu, Petrie, là, pour un choix de deuxième ronde en 2015, puis ça a été le choix Jonas Siegenthaler. et un choix de quatrième en 2015, Caleb Jones. OK. Fait que je vais te dire, là, en tout et moi, ma Sainte Vierge, là, on n'a eu pas grand-chose, là. OK? Alors, ça a été vraiment un bon coup. On parle beaucoup du coup de Tipol, là, Byron. Oui. Mais celui-là, c'était super de bon coup, ça, là.
C'est un super de bon coup, d'autant plus que Petrie est aujourd'hui un meilleur défenseur que ce qu'il montrait à Edmonton. Moi aussi, j'avais des collègues d'Edmonton qui ont dit, ils me disaient un peu content. Voyons comment ça se fait qu'un Canadien est allé chercher ce gars-là. Puis je disais, attendez voir, ça va bien à Montréal, ça va bien. Et il est devenu un meilleur défenseur. Écoute, ils ont tellement de problèmes en défense à Edmonton. Il y en a au moins autant qu'à Montréal. Il prendrait-tu aujourd'hui, Jeff Petrie?
Hey, attends une minute, là. T'as raison, mais je peux-tu un autre petit commentaire de même, Marc-Antoine?
Ouais.
Lui, ici, il n'y a jamais eu un gars pour jouer avec à gauche.
Non. Effectivement. Puis,
écoute.
Il a été, puis à Edmonton, il a eu le même problème avec lequel il a été pris depuis en absence de Weber, c'est-à-dire de jouer dans la mauvaise chaise. Et c'est là où je trouve qu'il est devenu un meilleur défenseur, parce qu'à Montréal, il s'est acquitté de sa tâche. Il a répondu à ce défi-là d'une manière qu'il n'avait pas réussi à faire à Edmonton. Et c'est pour ça qu'Edmonton, à un moment donné, ils ont un peu démissionné sur son cas, puis ils ont dit, ben, au trade deadline, on n'essaiera pas de leur signer. Alors, tandis qu'à Montréal, ce défi-là, il l'a relevé.
OK. J'ai annoncé plus ou moins. Ben non, je n'ai pas annoncé plus ou moins. J'ai annoncé que c'était Chuck Fletcher, mercredi dernier, qui était pour être le directeur général. Maintenant, ça s'est concrétisé aujourd'hui. Juste un petit commentaire rapide. Penses-tu que c'est le meilleur choix? Et moi, je te pose la question tout de suite. J'ai une petite idée, mais je voudrais ta réponse. Parce que c'est toi le grand connaisseur. Est-ce qu'il va garder son coach durant toute l'année ou bien il va arriver avec son coach direct là?
Ben écoute, tout le monde a un boss, hein. Et puis le boss, Paul Holmgren a démontré que Comcast et puis lui en tant que président, en tant qu'ancien des Flyers, continuait de mener la barque, quoi qu'en pensait Ron Hextall.
Ouais.
Et s'il n'a pas congédié immédiatement, il aurait pu faire maison nette puis congédier le coach et congédier le directeur général en même temps. Alors je pense qu'il a encore la confiance de la haute direction Dave Hextall derrière le banc. Alors, je crois est-ce qu'il va finir la saison? Je m'attends pas à ce qu'il soit nécessairement congédié sur le coup en disant, ben, il n'est pas l'homme de Chuck Fletcher, alors on va le remplacer tout de suite. Il va quand même y avoir une période de probation parce que Chuck Fletcher doit déterminer si les joueurs l'écoutent encore. Et après ça, ça va être à lui de voir est-ce que c'est les bons joueurs qui sont en place. Parce que il y a à Philadelphie, t'sais, on s'ennuie un peu du temps du bing-bang-boing, les Flyers qui rentrent dedans, les Flyers qui rentrent dans le tas, le hockey a changé, je le comprends, mais c'est une équipe qui s'est éloignée de son ADN, de sa véritable marque de commerce. Je pense qu'il risque d'y avoir un petit effort pour essayer de s'en rapprocher.
Ouais, par rapport à ça, c'est pas une équipe en reconstruction, cette équipe-là, là, avec les Giroux et compagnie. C'est pas une équipe. Puis ils n'ont pas de goaler. Fait que je vais vous dire une affaire, là, honnêtement, parce que j'ai une dernière question à te poser. Mais honnêtement, là, je vais dire une affaire. J'aime bien mieux l'équipe de Montréal que l'équipe de Flyers de Philadelphie en passant. Es-tu d'accord?
Oui, parce que écoute, le problème des Flyers, c'est que leur groupe d'attaquants, c'est des vétérans. Leur noyau de vétérans en attaque, c'est des gars de 29-30 ans. Puis leur avenir en défense, c'est tous des jeunes. Alors, il y a comme un... c'est pas synchronisé entre ce qui se passe en avant et ce qui se passe en défense. Et effectivement, tu dis, ils n'ont pas de gardien de but. Ça, je pense, moi, j'ai bien aimé le travail de Ron Hextall en général, mais il y avait un problème énorme devant le filet, puis il l'a pas réglé.
OK. Trois matchs en 15 jours, à peu près, contre les Sénateurs d'Ottawa. Commentaire rapide. Penses-tu que Thomas Chabot, il fait oublier un peu Carlson? Puis si t'avais, toi, à choisir, je garde Carlson, ils ont fait 88 millions pour 8 ans. Aussi bien garder l'argent pour le donner à Chabot?
Ben, surtout que Chabot ne coûtera pas cet argent-là avant très, très longtemps.
Exact.
Ben, écoute, c'est une belle surprise, mais imagine, t'étais pas obligé d'avoir le choix. Je veux dire, s'il avait pu avoir les deux, ça leur ferait tout un duo de choc. Mais c'est vrai que Thomas Chabot réussit à faire oublier Carlton d'une certaine manière. Je pense que c'est rare les défenseurs aussi jeunes, qui ont aussi peu d'expérience dans la Ligue, qui s'imposent aussi rapidement. Tu sais, des défenseurs qui ont 21, 22 ans, qui deviennent des vedettes, on en voit. Mais aussi jeune que Chabot, c'est vraiment étonnant parce que c'est pas non plus comme s'il y avait une grosse force de frappe en avant de lui pour dire, bon, ben, il fait sa première passe, puis les attaquants s'occupe du reste. C'est pas ils ont des bons joueurs, mais je veux dire, c'est pas non plus une super machine offensive des Sénateurs d'Ottawa. Donc, ce qu'il réussit à faire, c'est vraiment épatant.
Matt Duchesne, en 15 secondes, Matt Duchesne, le mal-aimé, qu'est-ce qui arrive? On le signe, lui, ici, pour 8 ans, puis on lui donne combien? Ou c'est quoi l'affaire?
Moi, je pense qu'il va essayer de... Il va se montrer tellement gourmand qu'il va essayer de se trouver une place ailleurs qu'à Ottawa. C'est probablement pas ailleurs qu'à Ottawa qu'il va avoir une meilleure place comme centre de premier trio, par exemple, mais j'aime mieux les chances de Mark Stone de re-signer à Ottawa que celle de Duchesne.
Parfait, c'est bien dit. Merci, bye, on se voit demain. Bye, 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 bye.